Je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8. You got a tall body, hairy body, brown body. Listen to mommy, not
one body bad. Everybody a good body and that's facts. Et bonjour. Alors, effectivement, hein, vu les atmosphères politiques de partout, on aurait pu vous parler de nationalisme, d'impérialisme, de fascisme, des guerres et des violences qui sont de partout, partout, partout. C'est pas les sujets politiques qui manquent. Mais malheureusement, on n'avait pas le temps de se retrouver pour en faire vraiment quelque chose. Mais du coup, on voulait quand même se retrouver et prendre l'antenne pour se retrouver, justement, dans ces moments difficiles et périlleux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire un puzzle. Non, enfin, ou un puzzle audio, comme on dit. C'est-à-dire que chacun, chacune va amener un petit bout de quelque chose pour passer cette heure ensemble et avec vous sur les ondes de Radio Campus Grenoble. On est dans Dégenré.
On espère que vous appréciez la nappe sonore présente de la soirée du dessous. Voilà.
Nous, on apprécie, moyennement. Les murs tremblent, comme souvent.
Les vitres aussi. Nous sommes là. Alors moi, je vais vous parler du livre « Là où je me terre » de Caroline Dawson. Donc pour ça, voici la quatrième de couverture. Valparaiso, décembre 1986. Tremblement de terre entre les quatre murs d'une maison. Un homme et une femme annoncent à leurs enfants qu'il faut tout laisser derrière et fuir le Chili de Pinochet. C'est Noël, la petite Caroline a 7 ans et elle aura la nausée durant tout le voyage. La fillette atterrit à Montréal. En plus de la neige dehors, il y a le tapis rouge vin de l'hôtel Ramada qui accueille les personnes réfugiées en attente de papier. Il y a aussi Passepartout qui semble s'adresser à elle à travers le téléviseur. Il y aura tout ce temps passé dans les banques où ses parents font des ménages. Entre l'exil, les fantômes du passé et le jeu des différences, la petite Caroline camoufle sa furieuse envie de vivre pour ne plus dénoter et devenir une immigrante modèle. Mais comment apprend-on à ne plus s'effacer? Comment peut-on embrasser une nouvelle culture sans renier ses origines? Lumineux et vivant, là où je me terre, sont de la possibilité d'aimer et de lutter sans ne plus avoir à fuir. Donc, j'ai beaucoup aimé cette lecture pour de multiples raisons et j'ai eu envie de vous présenter ce livre qui se compose de petits chapitres qui font entre 2 et 5 pages. Nous allons lire page 64, Ma petite Julie. À mi-chemin de l'année 1987, l'école d'accueil ne serait pour moi plus que de vagues impressions. Plus de visages, ils iraient tous échoir dans la voûte de la petite réfugiée, comme ceux dont on n'a pas la photo et dont on ne se souvient plus, comme ma mémoire du Chili, des souvenirs en brouillard. J'avais passé un hiver dans la mosaïque multiculturelle canadienne, fantasmée et protectrice de la classe de francisation. J'avais réussi la première étape pour devenir une super réfugiée modèle d'intégration réussie. On m'acceptait dans un programme régulier. Cependant, dans la cour de l'école primaire Louis Collin, dans l'Aoustic, il me semblait que j'entrais encore une fois dans un nouveau pays. Dans cette école, il n'y avait plus tellement d'immigrants, s'il y en avait eu. Ils étaient majoritairement blancs. Ce n'était pas la même chose. Je ne pouvais plus me fondre dans la masse. Je sortais du lot. Les premières journées, je n'arrivais pas à reconnaître les autres élèves, tant les fillettes étaient à mes yeux identiques, bien fines, bien en santé, bien calmes, bien ennuyantes. Des Julies par dizaines, minces, habillées de couleur pâle, le sourire rose, l'air vaguement gentil, le cheveu blond et fin. Certaines disaient qu'elles étaient châtaignes, mais s'il y avait une différence, elle m'échappait encore et était franchement exagérée. On disait pourtant juste noire pour toutes les autres teintes au-delà du brun foncé. J'arrivais en deuxième année avec mes épaisses tresses noires qui tenaient rarement toute la journée, mon surpoids dû au patito quotidien, ma salopette en jean dont j'étais la seule à penser qu'elle était cool, mon t-shirt rose fluo délavé et mon ensuite de jogging mauve acheté en liquidation chez Woolworths et ma flûte à bec. Ma flûte à bec dans les poches, comme si j'étais au-dessus des conventions sociales. Tout cela aurait pu renforcer mon indépendance et mon originalité si je n'avais pas été si consciente de mon inadéquation avec l'environnement. Et peut-être aussi si celui-ci ne m'avait pas toisée avec un certain mépris, que je comprendrais plus tard comme un mélange de hauteur, de dérision et de pitié. « Ta mère t'a pas peigné aujourd'hui », me disait-elle le matin, en retirant soigneusement leur passe-montagne rose pour en ressortir les cheveux lisses, une barrette sur le côté. Tandis que je m'ébouriffais la tignasse en l'enlevant de ma tuque brune tricolore tricotée maison, pleine de statique. Je gesticulais, j'avais un accent, je parlais fort, je jouais de l'hostie de flûte. J'étais outrageusement enthousiaste, sonore, voyante. Tout mon être était tapageur à côté des filles que je trouvais si délicatement dans le luxe de leurs anonymats. Je ne pourrais jamais arrêter être assez caméléon pour leur ressembler physiquement. C'est donc ma personnalité qui a été étouffée. J'ai décidé à 8 ans d'éviter de sortir du lot. Je me suis pratiquée devant le miroir à ne plus parler avec les mains. J'ai retenu mon emballement en classe. J'ai appris à ne plus rire trop fort devant les autres filles quand elles faisaient des blagues. Je me suis forcée à marcher au lieu de courir à la récréation. La retenue est devenue ma posture. Si je n'avais pas réussi à éteindre la petite Latina en moi, j'aurais au moins tenté d'atténuer, en mesure, la véritable campagne d'excitation graduelle. À force d'amortir mes couleurs et d'émousser mes ardeurs, je me suis fabriqué une enfance assourdie. En même temps, tout criait que je ne serais jamais une petite Julie. Quand on me demandait mon prénom et que je répondais fièrement Caroline, sans accent, parce que je m'étais pratiquée comme une épreuve olympique, il y avait toujours une petite pause malaisante qui trahissait le scepticisme de mon interlocuteur, adulte ou enfant. Tout me trahissait, les Julies de l'école, pas dupes, finissaient invariablement par me demander « Caroline, t'as été adoptée ?»« Non, » répondais-je, l'oreille basse, dans un murmure penaud, embarrassé. Je n'avais jamais le temps de leur raconter que mon père était prof d'anglais au Chili, et qu'avec ma mère, ils avaient choisi des prénoms anglais pour leurs 3 enfants. Aussitôt se lisait le désintérêt sur leur visage, et tandis que, éteinte, je les regardais s'éloigner, je retrouvais le silence suffoqué d'une vie sans écho, aux oscillations froncées, feutrée et en sourdine, mon intranquillité. Donc c'était un extrait de « Là où je me terre » de Carolina Dawson.
Merci. Alors moi aussi, je vais enchaîner avec un bouquin, qui est un bouquin de Kai Cheng Tom, qui s'appelle « Femme magnifique et dangereuse, mémoire affabulée d'une fille trans ». Et Kai Cheng Tom, je pense qu'on en avait déjà parlé, je ne vais pas me souvenir dans quelle émission, mais... Parce que, bon, en tout cas, elle est sino-canadienne, elle est travailleuse sociale et elle est engagée dans plein de trucs. Elle a co-créé Loving Justice Framework, qui est un modèle de résolution de conflits inspiré par les concepts d'abolition de la prison et de la justice transformative. Elle est elle participe à un programme de formation sur la santé mentale des plus jeunes et tout. Du coup, elle est quand même, c'est une personne, activiste, quoi. Et par ailleurs, elle est aussi écrivaine, performeuse, poétesse. Et du coup, je pense qu'on avait déjà lu des extraits de I Hope We Chose Love. J'espère que nous choisirons l'amour. Pour le coup, moi j'en ai eu connaissance avant. C'était sorti en 2019 et là le bouquin il est sorti en 2016, mais il a été seulement traduit en 2021. Enfin en tout cas moi je l'ai seulement dans mes mains là grâce à la bibliothèque du centre LGBTI de Grenoble. Et voilà, du coup on suit l'histoire d'une jeune fille trans de la diaspora chinoise qui va fuguer et qui va rejoindre une communauté de meufs trans. Et voilà, c'est un récit qui a un cadre réaliste, mais en même temps qui est ponctué d'éléments fantastiques, parce qu'on y trouve autant des fantômes que des sirènes, parmi le réalisme ambiant, du coup, c'est... Voilà. Du coup, je vais vous lire et le mini premier paragraphe de la couverture, et le tout début, pour qui est même le prélude, je dirais, au petit chapitre, parce que là aussi, comme le bouquin que tu as présenté, c'est que des petits chapitres et on suit l'évolution. Voilà, j'y vais.
Oh oui.
Peut-être que ce qui compte vraiment n'est pas si ce que je raconte est vrai ou faux. Peut-être que ce qui compte vraiment, c'est l'histoire elle-même, les portes qu'elle ouvre, les rêves qu'elle suscite, les récits dangereux. Je ne crois pas aux espaces sécuritaires. Ils n'existent pas. Je crois, cependant, au récit dangereux. Le genre qui s'élève à l'intérieur de toi quand tu t'y attends le moins. Telle la voix d'un ange fou susurrant l'hymne de la révolution que tu t'apprêtes à déchaîner. Les récits qui modifient la courbure des courants d'air. S'y entrelacent alors qu'ils crachotent sur ta langue, te faisant scintiller de splendeur, de sorte que tout autour, on s'accroche à chacun de tes mots enivrants. Le genre de récit dont rêvent les filles qui, furtivement folles pour se réconforter après s'être endormies en pleurant la nuit, de ceux qui ont fait traverser tout un océan à ton pauvre grand-père affamé, lancé à la recherche de richesses incroyables qui, lui avait-on dit jadis, l'attendraient de l'autre côté. Un récit qui n'attend pas que tu l'invites à entrer, mais qui explore à travers les portes de ta maison infestée de rats, telle une rafale scintillante, affamée, avide, et qui vient arracher la moquette et éparpiller tes papiers et faire éclater jusqu'à la dernière des assiettes de ta cuisine, qui déferle, hurlant, en haut des escaliers délabrés, pour soulever les draps tachés de ton lit crasseux et balayer tes secrets hors du placard, glapissant de joie à l'air libre, enchanté d'être enfin libéré. Où sont ces récits à propos de filles trans comme toi et moi ? L'autre jour, je regardais un peu de télé après le sexe quand une belle femme trans blanche dans une robe fluide en organza blanc est apparue à l'écran. Elle faisait un discours. Tout à propos d'elle était très blanc, comme si elle allait bientôt être ensevelie et broyée en un diamant. Elle était déjà une multimillionnaire célèbre avant son coming out, et quand elle l'a accompli, tout le monde en a fait tout un plat. Ensuite, elle a eu l'opération. Et maintenant, elle reçoit un prix Bonne Samaritaine intègre, pilier de la communauté pour, genre, son courage ou quelque chose. Ce qui est quand même plutôt cool, je suppose. Parce que, tant mieux pour elle. Je vais quand même admettre être un tout petit peu jalouse. Parce que j'ai toujours voulu une robe fluide comme celle-là. Mais ce qui m'énerve, ce n'est pas qu'elle est riche, ou célèbre, ou blanche, ou quoi que ce soit. Enfin, pas beaucoup, du moins. Non, ce qui me dérange vraiment, c'est la manière dont on raconte toute cette histoire. Regardez, tout le monde, cette pauvre petite fille trans voulant désespérément un docteur pour lui donner des seins et un vagin et une jolie face et lui permettre de porter de belles robes. Sauvons les filles trans, sauvons les baleines, mettons-les dans les eaux. C'est, en fait, un très vieil archétype dans lequel on met les histoires de filles trans. Ce genre de personnage tragique, brave petite orpheline, qui est censée souffrir à travers tout et attendre. Parce que si tu es suffisamment bonne et courageuse et patiente, et blanche et riche, alors tu reçois la grande récompense. Être comme tout le reste du monde, blanc et riche et insipide. Et puis tu épouses le prince ou le footballeur et vous vivez monotonement jusqu'à la fin des temps. Nous sommes comme Cendrillon, attendant d'aller au bal, comme la petite sirène qui fait modifier chirurgicalement sa nageoire et sacrifie sa voix pour mieux marcher sur la terre. Ce sont les récits qu'on récolte ces jours-ci. Ça ou, tu sais, les versions où nous sommes mortes. Où sont toutes les histoires à propos de petites filles trans à la peau basanée, voleuses, qui brandissent des petits couteaux à manches d'os ? À propos des ados trans, sorcières avec des yeux dorés, qui découpent leur propre cœur et les cloîtrent dans des boîtes pour que les vilains garçons de l'internet ne puissent jamais les briser à nouveau ? À propos des filles trans qui se sont fait prendre leur père par la guerre et leur mère par la maladie, et qui partent à l'aventure pour trouver le lieu où vit la mort et l'obliger à ramener ses parents à la vie. En regardant le visage ivoire de la dame trans à la télé, j'ai décidé sur le champ que quelqu'une devait écrire pour nous, les filles, une histoire dangereuse. Un récit autobiographique transgenre, mais pas comme la plupart des 11 378 autofictions transgenres qui existent déjà, qui sont juste des régurgitations de la même vieille histoire qui nous rend insipides et mortes et sécuritaires à lire. Je voulais quelque chose qui déchire, quelque chose d'intense, avec du sexe torride et de la violence de gang et peut-être des zombies et plein de magie. Ce qui est, genre, pas mal ma propre vie en fait. Donc je me suis dit que j'allais m'essayer à l'écriture. La foule s'est levée pour applaudir lorsque la dame transmillionnaire à la télé a fini son discours sur l'importance de croire en soi. Et sur les 127% des adolescents, adolescentes trans qui font des tentatives de suicide et comment on doit les soutenir dans leur lutte en attendant que ça aille mieux. It gets better. J'ai ressenti une colère bouillante, pointue, comme si je voulais donner un coup de pied dans l'écran, en plein dans sa face stupide, pâteuse, remplie de botox. Ça a passé proche. C'était la télévision de mon copain et il a un bon travail et tout. Et j'aurais pu lui dire que mon pied avait glissé. Mais en fin de compte, j'ai pas pu. Parce qu'au final, elle reste quand même ma sœur, tu vois. Et même si je ne l'aime pas, ou que je suis jalouse d'elle, ou peu importe, je ressens quand même le besoin de garder dans mon cœur une flamme. Une flamme d'amour brûlant pour mes sœurs. Je ne veux pas devenir une de ces vieilles militantes amères qui se doit de tout détester. Alors au lieu de donner un coup, j'ai soufflé un baiser à la télé. Une étincelle a bondi de mes lèvres, a sauté sur ma paume et s'est lancée dans l'air pour se poser doucement sur son visage en gros plan. l'écran a explosé dans une symphonie glorieuse d'électricité et de verre brisé. Et un million de tessons acérés se sont envolés dans les airs et sont devenus des papillons cramoisis qui ont dansé dans la chambre avant de s'envoler par la fenêtre. Donc ça, bien sûr, c'est le prélude, ce n'est pas le début de l'histoire, mais je trouvais que ça donnait bien envie quand même, déjà.
Tout à fait.
Et pour rester dans le thème de meufs trans qui renvoient les stigmates dont on les affuble et dont qu'on leur fait mal avec, on a le dernier morceau, hein, je crois, des Desert Girls, qui est le morceau annonciateur de leur nouvel album qui s'appelle Transterrorisme. Et le morceau s'appelle Autogynorectoverso. Et on va écouter ça.
Quand j'autogynéphile, je mets joli dessous, puis me monte dessus. Je sais plus si je baise toi, moi ou nous. Quand j'autogynéphile, je mets mes jolis bas pour te crier tout haut que ça me donne chaud quand j'ai envie de moi. Quand j'autogynéphile, que je mets d'hérésie, j'ai à la fois envie d'être une jolie fille et celle qui l'a salée. Quand j'autogynéphile, ton dégoût dans le rétro, je roule dans la ville en chantant dans le micro. Auto, gino, recto, verso, oh oh oh.
Et pour continuer, je vais vous lire un texte de Lou qui a été publié dans Climat Magazine en 2019. Donc Lou entretient différentes pratiques de facilitation, danser par le milieu, jardiner, organiser des funérailles, générer des modes de résurgence, de réparation et de résolution de conflits, pas seulement humains. Y alors co-conspire l'émergence de communautés queer rurales. Et le texte que je vais vous lire s'appelle « La danse est un service écosystémique ». Tout comme le fait d'être trans. Donc c'est une traduction de l'anglais vers le français, alors excusez-moi si c'est pas toujours au top. Quand on vous demande d'utiliser un pronom neutre, à la place de « il » ou « elle », faites-le. Ne vous demandez pas pourquoi, faites-le tout simplement. Prenez l'habitude de demander aux personnes que vous rencontrez quel pronom elles utilisent, même si cela vous semble évident, surtout si cela vous semble évident. Dénaturalisez vos perceptions. Si cela demande beaucoup d'efforts, reconnaissez-le. Si vous en êtes capable, faites-le quand même. Ou plutôt, faites-le précisément parce que ce n'est pas encore facile. Ralentissez. Faites des erreurs, puis faites-en moins. La binarité des genres, telle que nous la connaissons, est un appareil colonial créé par les Européens pour contrôler, maltraiter et tuer au nom du progrès et de la civilisation. Et ce massacre se poursuit chaque jour. Les personnes que nous appelons aujourd'hui trans, intersexuées ou non conformes au genre, ont toujours existé pourtant. À toutes les époques, en tout cas. Bien avant la révélation des Lumières. Si nous sommes non conformes à quelque chose, c'est à une ontologie coloniale relativement récente et il est temps de la laisser s'effondrer définitivement. Au fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai officiellement cessé d'être une personne atteinte de troubles mentaux il y a 3 jours, le 25 mai 2019, selon l'Organisation mondiale de la santé. Mon genre est désormais simplement incongru, selon les experts. Laissez-vous contaminer par le doute épistémique que vous devenez peu à peu capable de manifester. Et vous, que pleurez-vous à cause des fictions politiques du genre? Demandez-vous, avec Alok Vaid Menon, quelle partie féminine de vous-même avez-vous dû détruire pour survivre dans ce monde? Écoutez votre instinct. Laissez place aux résurgences. Abandonnez votre quête de l'hétérosexualité. Laissez votre corps être attiré par ce que l'on ne vous a pas invité à désirer. Latour l'a presque écrit, nous n'avons jamais été hétérosexuels. Rien ne vous oblige à être un être sexuel. Si vous choisissez de l'être, suscitez un désir qui est étymologiquement hétéro, un désir des autres dans toute leur altérité. Prends le temps d'accueillir de plus en plus de corps capables d'éveiller le désir en toi. Transforme ce processus en une fête. Célèbre et contamine. Réapproprie-toi les splendeurs de ce que l'on t'a appris à trouver répugnante. Réjouis-toi de l'étrange, crée de la beauté dans toutes les interstices. Facilite les transitions partout et tout le temps. Cultivez les pratiques de désidentification, fluidifiez votre expression de genre, apprenez à oser être vulnérable. Faites tout cela tout en reconnaissant vos propres privilèges. Si vous êtes blanc, apprenez tout sur l'histoire de l'intersectionnalité et commencez à écouter et à faire de la place au lieu d'utiliser ce concept même pour expliquer la vie aux gens. Écoutez tout sans vos oreilles, surtout ce qui ne fait pas de bruit. Si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour le climat. Faites-le pour les arbres et les papillons. Choisissez pour qui ou pourquoi vous le faites à ce moment précis, même si c'est toujours pour tout le monde à la fois. Devenez capable d'aborder les choses. Faites-le comme un service écosystémique. La crise climatique est un projet colonial hétéropatriarcal, une manifestation de la suprématie blanche. Chaque geste concret contre ton propre racisme, ta propre transphobie, ta propre misogynie, ton propre capacitisme, ta propre haine de toi-même est un geste concret en faveur d'une résurgence climatique, un cadeau direct et immédiat aux koalas. Alors que vous pleuriez l'extinction du rhinocéros blanc la semaine dernière, 3 femmes trans noires ont été tuées dans différentes régions de la plus brillamment développée de nos colonies. Les États-Unis d'Amérique. 3 femmes trans noires tuées en l'espace de 8 jours. Si vous vous sentez impuissant face à la 6e extinction de masse, comprenez que fournir une aide financière ou organisationnelle pour la mise en place de refuges pour les femmes transgenres n'est pas juste une énième cause à soutenir. Du genre « on ne peut pas tout faire » ou « il y en a déjà tellement ». Il est urgent de reconnaître l'imbrication des massacres. Les cultures monocultures et les opérations non consenties pratiquées sur les personnes intersexuées font partie de ce même système épistémique qui éradique systématiquement toute résurgence. Lutter pour la justice sociale est un service qui est littéralement écosystémique. Si tu ressens de la fragilité blanche, détends-toi. Respire. Tais-toi. Sens l'air qui t'entoure. Écoute les objets et les choses. Ne te culpabilise pas, personne n'en veut ici. Les plantes n'ont pas besoin de ta culpabilité, les calottes glaciaires non plus. Apprends à t'aimer, c'est une responsabilité écologique. Endette-toi immensément et joyeusement. Endette-toi envers les plantes qui te font respirer, envers ton microbiote, envers les gens que tu ne comprends pas encore tout à fait. Même ici, dans une pièce fermée au cœur de la ville, souvenez-vous qu'il n'y a pas une seule molécule de dioxyde que vous respirez qui n'ait été produite par une plante ou par du phytoplancton, qui n'ait traversé leur corps à un moment donné sur Terre avant de traverser le vôtre. Faites de la place à cette intimité cellulaire dans votre vie quotidienne. Reconnaissez vos interdépendances afin de les célébrer. Remercie, invente de nouvelles façons de donner, encore et encore. Élabore des stratégies pour parvenir à le ressentir dans ton corps. Danse pour les plantes, danse pour toi-même, danse pour le monde, danse pour cette infinie partie du monde que tu es. Bougez votre corps comme une oreille géante articulée, une technologie réceptive ultra sophistiquée. Bougez comme un cadeau précieux à tout, comme une manifestation de gratitude structurelle. Bougez pour inventer de nouveaux lieux de plaisir dans les muscles des choses. Écouter, c'est aussi s'entendre, créer des accords. Danse avec les autres, crée des groupes pour partager des plaisirs qui vont au-delà du simple plaisir sexuel, organise-toi. Mets en relation ceux qui veulent danser ensemble, crée des moments pour danser dans l'ombre. Pas besoin de cours ni d'institutions pour se rassembler. Danse dans une pièce, sur une place, dans un parc. Même à Paris, il y a partout des interstices à explorer. Danse comme un service écosystémique. Comme une technologie conspiratrice accumulant des méthodologies révolutionnaires dans vos os. Pensez comme un service écosystémique. Faites de l'art, de la science et des histoires comme un service écosystémique. Détestez la police et les prisons comme un service écosystémique. Battez-vous pour faciliter toute forme de réparation ou de guérison structurelle. Faites de l'amour le service écosystémique que l'amour n'a jamais cessé d'être. Exigez le consentement à chaque étape de tous vos choix. Imaginez de nouvelles façons de se sentir vu pour reconnaître ton travail et le faire connaître. Nos pratiques nous ressemblent, elles font de nous des essaims, elles mêlent nos corps et les formes de nos pensées. Nous n'avons jamais été des individus et nous avons ce qu'il faut pour réinventer cela chaque jour. Les ondes sont des mouvements vicieux et magnifiques, des monstres condamnés à se décomposer et à se dévorer les uns les autres. Laissez vos noms s'éteindre. Organisez une veillée joyeuse, permettant à d'autres noms étranges de fleurir à partir de la chair et des os de vos morts. N'oubliez pas d'aller voir le spectacle des choses. C'est émouvant et vous en faites partie.
Merci. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce texte?
Je crois qu'il est en ligne. Moi, je l'ai trouvé en PDF en ligne. Du coup, c'est publié dans Climat Magazine et il suffit de taper le nom.
Ok, voilà. On mettra la ressource.
Oui, carrément.
Dans le podcast. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus 90.8 dans Dégenré, notre émission puzzle lecture, pas que, mais surtout lecture. Et moi, je vais vous relire un extrait de Là où je me terre de Caroline Dawson. C'est page 184. Qui prend Marie, prend pays. Rapidement, après mes études, j'ai occupé le métier de mes rêves. Bien loin de l'enfant invisible traînant dans une banque désertée par ses employés, j'ai trouvé ma place sur un fauteuil qui tourne. Je suis devenue prof de sociologie au cégep. Toutefois, j'ai tout de même eu de la difficulté à percevoir mon gagne-pain comme une job. Parce que ce n'est pas un emploi où j'ai un boss et qui pourrait me montrer la porte demain matin. Ce n'est pas un travail qui me salit les mains, qui me fait baisser la tête, qui sent les filtres sales de la machine à café, le plastique des distributeurs d'eau et le mélange de Windex et d'eau de Javel. J'enseigne depuis plus d'une décennie le cours de sociologie du Québec. Je parle de la révolution tranquille, de socialisation de genre, d'évolution des taux de suicide, d'intégration à la société québécoise, de racisme, d'institutionnel, de classe sociale. j'enseigne les coordonnées sociales du Québec avec les mots de la sociologie que la sociologie m'a offert, comme s'ils étaient les miens. Je suis payée pour lire, pour écrire, pour penser, pour parler en avant de la classe. Des dizaines d'yeux, jeunes et vifs, me regardent, m'observent. Ces jeunes m'écoutent, leur expliquer le vivre ensemble, m'écoutent, leur révéler la part du social chez les êtres humains. La sociologie m'a fait devenir parole. Comme si ce n'était pas assez, j'ai pu me promener ma parole à travers le monde. Lors d'un voyage à Lisbonne, j'ai croisé un beau grand Suédois avec qui j'ai entretenu une relation à distance durant 2 ans avant qu'on décide de se marier. Ma mère, qui avait rêvé toute sa jeunesse d'être pharmacienne, n'en pouvait plus. Un gendre blond, scandinave, pédiatre. À la loterie de la vie, j'avais pogné le jackpot des maris. Je revenais d'une énième traversée de l'Atlantique pour retrouver mon fiancé durant quelques semaines et mes parents, dévoués comme toujours, étaient venus me chercher à l'aéroport. Nous roulions en voiture et je leur parlais de sa famille. Son père, aussi médecin, sa mère issue de la noblesse suédoise, doyenne d'une faculté de droit, quand ma mère m'a interrompit. « Mais qu'est-ce qu'il te trouve ?» On pourrait croire qu'il était incongru pour la fillette aux genoux cagneux, en elle, de voir celle que j'étais devenue. Mais ce serait mal connaître ma mère, qui non seulement m'appelait « mi reina », mais qui le pensait. Depuis longtemps, je n'étais plus une jeune réfugiée à ses yeux, mais une femme privilégiée, bourgeoise, qui vivait sa vie en pleine lumière, qui expliquait à ses petits Québécois leur propre société, qui avait le loisir de voyager partout dans le monde et de se payer une relation à distance, de lâcher momentanément sa job pour aller vivre son nouvel amour à Stockholm. Mais qu'est-ce qu'il te trouve ? Marquait la distance de classe que j'avais franchie, mais aussi ce qu'elle savait tapis en moi. Ce n'était pas qu'elle questionnait la légitimité de ma place, seulement elle me savait moins confortable dans une robe de bal qu'entourée de travailleurs à l'heure de pointe dans un métro bondé. Elle savait que c'est dans la foule d'un autobus trop chaud, à écouter les ragots des uns et en lisant par-dessus les épaules des autres, que je me sentais partie d'un collectif. Elle le savait, mais moi pas encore. Quelques mois plus tard, j'avais tout laissé en plomb et je suis partie vivre en Suède. Et j'ai failli laisser ma peau. J'étais enceinte et vivre ma première maternité reléguée à la sphère domestique dans un pays dont je balbutiais la langue a réouvert des cicatrices dont j'ignorais l'existence. Malgré l'indépendance financière, malgré l'ascension sociale, malgré la culture, je n'ai plus pu m'y faire. Être de nouveau l'autre, être loin de tout ce que j'avais si durement fait mien, me retrouver encore une fois anonyme, muette, dans une ville magnifique, riche, froide. De nouveau, je n'étais plus chez moi. Stockholm, mon diamant, mon palais de glace, ma cloche de verre. Je suis revenue au Québec, transi, me demandant moi aussi, mais qu'est-ce qu'il te trouve ?
Merci. Eh ben, et parce que Stockholm...
Tout à fait.
Parce que la politique, le morceau qui va nous détendre après tout ça, c'est du groupe Stockholm's Anarcha Feminist Choir, si je prononce bien, avec le morceau On the Day the Nazi Died.
We're told that after the war the Nazis vanished without a trace, but battalions of fascists still live amongst the race. The history books, they tell of their defeat in 45, but they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat, was has remained in prison and the fascists they were beat. So the promise of an area world would never materialize. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies.
Comment une féministe lesbienne de Baltimore se retrouve-t-elle à rééduquer des coqs dans un poulailler à la campagne? Comme dans la vieille blague, tout commence quand un poulet décide de traverser la route. Peu de temps après avoir déménagé sans le savoir dans un des épicentres de la production industrielle de volailles, mon ex-compagne, Myriam Jones et moi, avons secouru une poule sur le bord de la route. J'avais toujours admiré les oiseaux de loin, mais je me suis surprise à me sentir de plus en plus proche émotionnellement de cette créature disgracieuse, si semblable par moments à un reptile, qu'elle me convainquait que les scientifiques avaient raison de rapprocher les oiseaux des dinosaures. Je trouvais aussi qu'elle avait les yeux de ma grand-mère, et avec ça, son charme têtu, et que ses pieds ressemblaient étonnamment aux mains humaines. Je m'étais toujours sentie très liée à la Terre, mais la preuve était faite. Les humains, humaines et les oiseaux sont parents. J'étais tout excitée par cette découverte et très touchée par l'attachement croissant que me manifestait cet oiseau en particulier. Un jour, Mossel, comme nous l'avions appelé, du nom de ma grand-mère, émit un nouveau son qui avait l'air d'annoncer quelque chose. « Elle a peut-être pondu un œuf, pensais-je. » J'ai farfouillé un peu partout à la recherche de l'endroit où elle aurait pu cacher son trésor. Quelques jours plus tard, au petit jour, elle gargouilla comme si elle était en train de s'étouffer. Et j'ai eu peur qu'elle soit tombée malade. Heureusement, quelqu'un d'avisé me fit remarquer. Ce piaf-là est un coq. J'avais mésinterprété les premières vocalises d'un coq adolescent. J'ai eu du mal à accepter que mon ami chéri fût un coq et non une poule. Il était toujours le même et pourtant il m'était difficile de ne pas le voir différemment. J'avais du mal à ne pas laisser tout ce que j'avais entendu sur l'arrogance, la prétention et l'agressivité des coqs transformer mon regard sur ce tendre et jeune oiseau qui m'était devenu cher. Pour la première fois, je commençais à me rendre compte que des préjugés liés au genre influençaient nos idées reçues sur les volailles et sur les autres animaux non humains. Il était temps que je m'en aperçoive. Où avais-je la tête ? C'est la question que je me pose au souvenir de toutes ces années passées en tant que militante lesbienne, végétarienne mais pas végane, féministe, antiraciste, pacifiste, anti-pauvreté, où j'avais maintenu que tout, le racisme, le sexisme, l'homophobie, le capitalisme, le militarisme, etc., étaient liés, en m'arrangeant toujours d'une manière ou d'une autre pour laisser les animaux non humains en dehors de l'équation. Pour moi, la question n'est pas « qu'est-ce qui m'a conduit à inclure les autres animaux dans mon militantisme ?» mais plutôt « pourquoi cela m'a pris-t-il tant de temps ?» Cette question mérite une réponse. Chaque fois que nous décidons de changer radicalement de pensée ou de comportement, nous avons tendance à mettre à distance la personne que nous étions de celle que nous sommes devenus. C'est compréhensible, mais ce n'est pas très utile. Incapables de nous souvenir de nos anciennes manières de penser et de sentir, et à plus forte raison d'entrer en empathie avec elles. Comment parviendrons-nous à toucher véritablement celles et ceux qui pensent et sentent toujours comme nous le faisions auparavant ? Et sans parvenir à les toucher, comment leur ferions-nous remettre en question ce qui, pour nous, pour eux, relève de choix intensément personnels ? Donc, même si cela me dégoûte un peu, je vais essayer de répondre à cette question. Pourquoi une militante végétarienne, féministe, altruiste et amie des bêtes a-t-elle mis tant de temps à devenir végane ? J'ai arrêté de manger de la viande en 1976. La même année, j'avais 15 ans, je faisais mon coming out et je participais à ma première marche pour les droits des gays, pas dans cet ordre. Quand je dis que j'ai fait mon coming out, je veux dire que je me suis décidée à ne plus jamais me mentir au sujet de mon amour pour les femmes, à ne plus jamais faire exprès de passer pour hétéra, et à ne plus jamais nier l'existence d'une amante en parlant d'elle au masculin. Je ressentais ces choses comme une trahison, non seulement à l'égard des femmes que je désirais, mais encore de mon être le plus profond. Ma décision d'arrêter la viande fut tout aussi simple. J'avais appris quelque part à la croisée des influences des années 70 que le végétarisme était un régime alimentaire particulièrement sain. Un beau jour, j'ai eu comme une révélation. Puisque je n'avais pas besoin de manger de la viande pour rester en vie, alors manger de la viande, c'était tuer pour le plaisir. Je ne pourrais plus me supporter, je ne serais pas la personne non violente que je croyais être. Si je continuais à tuer d'autres êtres, des êtres qui avaient leurs propres désirs, dans le seul but de satisfaire mon désir de goûter leur chair, rétrospectivement, je m'aperçois que ces deux décisions, faire mon coming out et arrêter la viande, concernent les rapports mutuels du désir et de l'intégrité. L'intégrité exige tantôt d'être fidèle à ses propres désirs, tantôt d'y résister. Je remarque aussi que l'une et l'autre décision avaient rapport au corps et au consentement. C'est un principe de base pour la libération gay. Ce que les personnes consentantes font de leur corps ne concerne qu'elles et personne d'autre. Car bien sûr, manger de la viande est quelque chose que l'on fait au corps de quelqu'un d'autre sans son consentement. Ces deux décisions éthiques ayant rapport au corps, Je ne veux pas laisser de côté leur dimension viscérale. C'était des décisions entièrement incorporées. Je ne me suis pas simplement dit « je vais arrêter la viande et je ne mentirai plus sur ma sexualité ». Après mûr examen de la question, mon corps se cabrait à l'idée de manger une vache ou de prétendre être hétéra. Je me rappelle très bien du sentiment de révulsion qui surgissait à chaque fois que je formais l'image d'une vache et que je m'imaginais de la manger. Un poids particulièrement intéressant à noter au vu de ce que je m'apprête à raconter. Quand je me revois en train de prendre ces deux décisions, apparemment sans rapport, il me semble aujourd'hui que dans l'un ou dans l'autre cas, la brave adolescente que j'étais rejetait résolument le contrôle patriarcal sur son corps. Je sais aujourd'hui que l'homophobie est ce que Suzanne Farr appelle une arme du sexisme, qu'elle est l'une des mille manières de forcer les gens à former des familles patriarcales. Et je sais aujourd'hui que le patriarcat, la domination masculine, et le pastoralisme, la domestication des animaux, ont évolué conjointement, les idées et les pratiques de chacun déteignant sur l'autre et contribuant à le constituer. Mais je ne savais rien de tout cela en 1976, ni en 1986, ni même en 1996, alors que je me trouvais au seuil même de la découverte intellectuelle et émotionnelle qui me conduirait à devenir végane et à me faire défenseuse de la cause animale. Alors, je viens de vous lire un extrait d'un texte de Patrice Jones, donc, qui est née en 1961 et qui est une militante et écrivaine écoféministe lesbienne, et voilà, qui dirige depuis 2000 un sanctuaire pour animaux libérés d'élevage, où ont été développés les premiers protocoles de rééducation des coqs dressés pour le combat. Elle critique l'habitude que nous avons de projeter nos propres représentations genrées, raciales, hétéro ou cisnormatives sur les animaux. Et ce texte, en fait, il est issu d'un recueil qui a été coordonné par Myriam Bahafou, qui s'appelle « L'écoféminisme en défense des animaux ». Voilà.
Super, merci. On va écouter une bande-annonce pour un film documentaire.
Photography is like a flash of euphoria and gave me a voice. Once I started sharing the work, it was really heavy resistance, especially from male artists and gallerists who said, this isn't photography. Nobody photographs their own life.
The photographer Nan Goldin, she's a major name in the art world.
The work was incredibly political. It was about power, and particularly about the power that men have over women.
100,000 dead!
There's the Sackler family of the art world, the museum world, and then there's the big pharma marketing and addiction and death.
My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious.
We need to demand that the Met Museum, the Louvre, the Tate refuse donations from the Sacklers and take down their name.
The rich people are scared that we're going to dig into the evil way they made money. The wrong things are kept secret in this society. And that destroys people.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Dégenré sur le 90.8 et on vient d'écouter la bande-annonce du documentaire de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé, qui est un documentaire autour de la vie, de la pratique artistique et des différentes luttes de Nan Goldin. Donc Nan Goldin, petit point, c'est une photographe et une artiste plasticienne et qui fait aussi des performances qui ont, on peut le dire, révolutionné l'approche de la photographie. C'est quelqu'un qui est exposé dans plein de très très grands musées. Et là, ce documentaire permet de retracer à la fois son travail, sa carrière, mais surtout de s'axer sur sa lutte. Donc je vais citer ses propos. Donc avant de citer les propos, je vais dire qu'elle a créé un collectif avec des artistes et des militants et des personnes concernées qui s'appelle Pain. Prescription Addiction Intervention Now. Et du coup, c'est un groupe qui vient s'attaquer à la famille Sackler par rapport à sa commercialisation et à son marketing autour des produits opioïdes, notamment l'oxycotine, qui sont responsables de ce qu'on a appelé la crise des opioïdes aux États-Unis. Elle dit « Je me focalise sur la famille Sackler, car c'est un nom qui m'était familier. Je pensais qu'il s'agissait d'une famille de généreux mécènes qui soutenaient des artistes que j'aimais. Puis j'ai compris à quel point leur argent était sale. J'ai découvert que ce sont eux qui produisaient et vendaient le médicament auquel j'étais devenue dépendante. » Donc ça, c'est ce qu'elle publie en 2019, donc dans une tribune de l'Art Forum intitulée « Growing Pain ». Ce documentaire, moi je l'ai découvert sur Arte, il est disponible gratuitement. Je vous recommande chaudement son visionnage. Donc quand on parle de ce qu'elle a traversé et de ce qu'elle a documenté, eh bien, on peut voir aussi la crise du sida, les actions d'ACT UP, des portraits de drag queen et des milieux queer dans les années 70, et du coup son engagement de dénonciation des milliardaires qui va jusque la possibilité d'avoir ces familles en procès pour qu'elles soient face à leurs responsabilités. Voilà, c'était vraiment très très bien. J'espère que ça vous aura donné envie.
Ouais, carrément.
Tout à fait. Et bien, avant de passer à un agenda, on va vous proposer un nouveau morceau de musique. Poum, poum, poum. J'ai fait le... Comment ça s'appelle? Plouf, plouf.
Amstramdram.
Amstramdram. On va tomber sur Mélissa Lavaux. Le morceau s'appelle Black Ice. Et c'est tiré de son album qui est sorti là tout récemment, qui s'appelle At My Softest I am most dangerous, qu'on pourrait traduire par c'est quand je suis dans ma plus grande douceur que je suis la plus dangereuse.
I'm pretty sure you and I would have died on impact if we had stayed. I don't remember much about the ice storm accident. I don't know if the driver survived and anyone else in that car. Call the fucking ambulance.
Reflection. Daylight dances with commotion. I'm like ice, I see your reflection, your reflection. Quiet, let's go.
night. It's colder than a...
So many accidents all over the place. Damaged beyond repair, but...
Et on reprend. Donc on est toujours dans des genres et là, donc un petit agenda. Parmi les choses qui se passent à Grenoble, de quoi on pouvait vous parler? En tout cas là, ce week-end, c'est-à-dire le week-end du 3-4. Et aussi, bien sûr, comme toujours, pour essayer de contrer le désespoir et l'impuissance, hein, puisqu'on ne sort pas du monde dans lequel on est. C'est un rappel qu'il y a l'Assemblée antimilitariste et anti-impérialiste. Et en fait, ça se passe tous les 3 et tous les 23 de chaque mois. Donc à 18h30, c'est soit au lieu, soit à la cata. Et donc, c'est quand même bien important, non seulement parce qu'au niveau national, la France, pour petit rappel des éléments qu'on trouve dans leur présentation, c'est bien le deuxième pays qui exporte le plus d'armes au monde, donc qui alimente donc bien sûr toutes les guerres en cours. Et bien sûr, cette puissance militaire, elle s'est développée sur une histoire coloniale française, faite de massacres, de pillages, de possessions. Et c'est cette puissance qui lui permet de maintenir sa domination coloniale et impérialiste aujourd'hui. Et évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, alors que ça fait plus de 2 ans qu'il y a la guerre génocidaire en Palestine et Gaza qui se déroule sous nos yeux, après 100 ans de violence coloniale, le génocide est alimenté par des technologies produites localement, c'est-à-dire dans la cuvette grenobloise. Comme ST Microelectronics qui exporte à l'Empire sioniste des technologies de pointe qui contribuent au développement militaire de son ancrage d'occupation. Du coup, voilà, ça c'est quand même une AG qu'on peut rejoindre tout le temps. Et je parle que de ça, mais évidemment, il y a eu le Venezuela, il y a eu l'Iran, enfin, je veux dire, ils s'en passent tous les. Mais en tout cas, c'est une AG qui est rejoignable donc tous les 3 et les 23 à tout moment, si vous êtes désemparé face à toutes ces guerres. Et le 11 et 12 avril, au lieu encore, donc ça c'est rue Abbé Grégoire, il y a un week-end qui est anticolonial sur les colonies de peuplement. Et les colonies de peuplement sont une forme de colonialisme marquée par des stratégies de volonté, de violence et de génocidaire, quoi, mais à l'égard des peuples colonisés. C'est-à-dire qu'en plus d'accaparer les ressources, les colons cherchent à s'installer en démantelant et en remplaçant les populations indigènes et en effaçant leur culture. Donc ça concerne vraiment de nombreux territoires sur tous les continents hein, qui sont marqués par le colonialisme de peuplement. Et ce week-end-là, donc du 11 et 12 avril au lieu, eh bien ça parlera plus particulièrement de l'Algérie, de la Kanaky et de la Palestine. Donc le samedi, c'est une journée sur les stratégies mises en place par les États coloniaux et le dimanche, une journée sur les résistances et les luttes des peuples colonisés. Il y a plein d'intervenants et intervenantes, c'est Après Libre, c'est PMR. Et ça ira, s'il y a un peu de soutien, ça ira aux prisonniers et prisonnières kanak. Peut-être que dans tout ça, on peut quand même dire que mes chiffres qui sont mal faits, le 10 avril, donc 10-4, vous voyez ma méprise. Il y a quand même des rencontres du soin militant, ça s'appelle Racine, rencontre autonome du Caire pour une inclusion émancipatrice et sociale. C'est à l'université autogérée. Et là, c'est pareil, c'est tous les 10, 20 et 30 de chaque mois. Et je trouvais ça important de le rappeler parce qu'effectivement, parmi toutes ces grosses luttes très fortes et déprimantes, un peu de care, ça peut ne pas faire de mal dans les luttes qui vont devoir durer très durablement. Et je ne sais pas si vous avez... Je vais terminer avec ça. Je ne sais pas si vous avez suivi la loi Yadan, là. La députée, c'est une députée, je crois, qui avait voulu proposer un truc et qui a failli passer aujourd'hui, mais heureusement, il y a eu des collectifs militants, citoyens qui ont alerté les députés. Mais elle va quand même passer le 16-17 avril, hein, mais si cette loi, elle passe, c'est que toute critique d'Israël sera considérée comme de l'antisémitisme. Du coup, ça vise à criminaliser les critiques de l'État israélien et sa politique en instrumentalisant la lutte contre l'antisémitisme. Et évidemment, hein, ça entend forcer les milieux académiques, médiatiques, militants, citoyens à l'autocensure, alors même que la survie du peuple palestinien est menacée encore plus, toujours et encore plus que jamais. Du coup, la question... Donc là, ça devait passer aujourd'hui, mais il y a eu un tollé, donc ça a été repoussé. Enfin, ça... Ils essayaient de passer en force, vous voyez, sans même prévenir. Enfin, je veux dire, c'était la veille pour le lendemain. Ah, en fait, demain, on va faire ça. Du coup, là, c'est toujours il va falloir se mobiliser parce que c'est toujours prévu pour les 16-17. Enfin, je veux dire, on passe encore un cran dans la criminalisation du soutien au peuple palestinien. Voilà, c'était donc très réjouissant comme agenda. Heureusement, on ne va pas finir là-dessus.
Eh bien, ouais, moi, il nous reste quelques minutes. Donc, j'ai envie de vous relire un extrait du livre « Là où je me terre » de Caroline Dawson. J'avais envie de vous le lire parce qu'il parlait de la radio. City Rock détente. Elle écoutait toujours la radio pour accompagner les interminables travaux ménagers qu'exigeait une famille de 3 enfants. Mais au lieu de la plupart des postes criards du privé, ma mère écoutait le 107.3 FM. Cité Rock détente, la radio des travailleuses domestiques et des femmes au foyer qui les soutenaient dans les corvées qui salissaient les mains et grugeaient l'âme au passage. Jamais il ne lui serait venu à l'idée d'écouter Radio-Canada. La radio d'État essayait de s'adresser aux citoyens. Or, ma mère n'était pas citoyenne et ne se sentait jamais interpellée par les sujets traités. Certes, on y parlait parfois au sujet de l'immigration, mais comme s'il s'agissait d'une question complexe, nécessitant des explications par des spécialistes. On discutait d'eux, des immigrants, comme si ils ne s'entendaient pas, comme on parle de quelqu'un qui n'est pas dans la même pièce. Des experts pouvaient longuement décrire les différentes facettes de la problématique immigrante sans que personne ne pense à tendre le micro à des immigrants. À part la rumba du samedi à la CISM, ma mère préférait de loin une radio qui parle à l'universel. L'amour, la perte, la tristesse, la solitude, ça la consumait. Elle javelisait donc la toilette au son de Bruno Pelletier, « Il est venu le temps des cathédrales », changer des draps sales avec Julie Masse. Et même si je survis loin de ton soleil, je déteste mes nuits, je hais mes réveils. Faisais la vaisselle avec Marie-Denise Pelletier, tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laissant une trace, dont les écumes font de la beauté. Et si elle était chanceuse, partait dans son shift du soir avec une vieille rengaine des années 60 qui demeurait sa préférée, tous les garçons et les filles de mon âge. Des chansons proprettes et tristes comme un bruit de fond à sa mélancolie domestique. À force de les écouter, avec elle, ces chansons ont rempli ma tête. Plus que tous les contes de fées et les films de Disney, c'est la cité rock détente, à laquelle je dois mon romantisme hétéronormatif, qui a guidé si longtemps ma vie de jeune fille. J'apprenais aussi et surtout en même temps que ma mère le français, avec des professeurs comme Roque Voisine, Ginette Reynaud, Marjo et Géry Boulet. Nous retenions toutes les deux les innombrables mots pour dire amour, lassitude et abandon en québécois populaire. Nous sommes ainsi entrés dans la culture québécoise par la porte de derrière, celle de la musique que l'on met à la fermeture des bars. Marie Carême, l'aigle noir, celle qui aide à tuer le temps dans la salle d'attente pour les services sociaux du CLSS. Éric Lapoint, n'importe quoi. Celle qu'on joue pour tromper la monotonie quand on fait la file à la banque pour déposer un chèque maigrelet du lavage de vitres payé au noir. Luc de l'Oréchière, sauvez mon âme. De la musique qui se plaint pour ma mère qui était épuisée et chagrin. J'ai souvent entendu des intellectuels à 500 baptistes, cette chaîne condescendante, citer Rock ma tante. Ce poste de radio a pourtant été mon institutrice et la seule véritable amie québécoise de ma mère des années durant. Cité Rock, immigrante. On Merci. S'écoute un dernier morceau ?
Oui, ça sera le morceau de la fin. Et après, on va se quitter. Et là, ben, du coup, on va vous proposer un morceau des Reines Prochaines qui sont en tournée.
Qui sont en tournée et qui jouent actuellement à Monestier du Percy.
Dans le Trièves.
Dans le Trièves.
Et demain, c'est à Saint-Étienne, si jamais vous êtes dans le coin, que vous avez décidé d'y aller. Et en tout cas, je crois que ça faisait plus de 25 ans qu'elles n'avaient pas fait de tournée en France.
Oui, tout à fait.
Ce qui est quand même pas...
On a failli les interviewer, mais ça n'a pas marché. Mais il paraît qu'elles vont revenir, donc on pourra le faire.
C'est super. Et donc, le morceau s'appelle « Suvesicht ». Pardonnez mes accents suisse-allemand. Et donc, en tout cas, c'est un morceau qui essaye de s'accrocher et qui essaye de redonner des perches pour ne pas perdre espoir. Je crois qu'on en a besoin.
Oui.
On se dit ciao.
À tout bientôt.
Bonne soirée.
Salut. Merci
la pour la technique.
La best. Thank you.
bleiben mit der Hoffnung verbunden. Wir durchbluten die Taubenstellen. Wir massieren die grauen werden wir uns drüber unterhalten. Wir werden Begriffe kreieren, das Neue zum Alten addieren. Wir verlieren die Zuversicht nie. Bleiben